Et voilà, c'est Temps de Noir, deuxième partie. Alors, on avait dit qu'on allait beaucoup parler de Gallmeister. On va continuer à parler de Gallmeister, des éditions Gallmeister. Et on peut même dire que cette deuxième partie d'émission, c'est une spéciale Chris Offutt. Alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs, hein, c'est la fin de la saison, ne connaissent pas cet auteur et c'est dommage. Donc, on va essayer pendant ces 20 minutes, Jacques d'abord, puis une chroniqueuse de luxe, une chroniqueuse exceptionnelle, Michel, qui va nous rejoindre, voilà, de nous faire découvrir les deux romans qui sont parus cette année chez Gallmeister, une réédition et une édition. Voilà, donc Jacques. Donc, toi pour la réédition.
La réédition, en fait, ce sont deux rééditions.
Pardon.
Mais celle-là a été, en plus d'être rééditée, a été retraduite. C'est le premier ouvrage publié de Chris Offutt. Ça s'appelle Kentucky Straight. C'est traduit par Anatole Ponce. Donc, c'est paru dans la collection Totem, la petite collection de poches de chez Gallmeister. Ça vaut 8,30 €. Et c'est donc, c'était paru dans les années 90 dans la collection La Noire de Gallimard.
Qui dirigeait à l'époque par Patrick Reynal.
Voilà, et ça avait un peu disparu. Donc là, ça ressort en poche, donc c'est très bien parce que ça coûte moins cher. Et c'est donc un recueil de nouvelles. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous décrire la couverture. Car en fait, elle donne une assez bonne, même une très bonne idée du contenu de ce recueil. Donc la couleur ocre, en fond une colline avec des arbres comme un bout de forêt.
Désertique quand même. Hein.
Assez désertique.
Il y a un peu ce côté désert.
Au premier plan, un verre au tiers plein d'un liquide ambré.
On pourrait penser au Kentucky.
Voilà, dans lequel repose une carabine. Donc évidemment c'est un montage, hein, vous l'aurez compris.
Oui.
Et cette carabine, évidemment, n'est pas là pour touiller les glaçons, car ici, dans le Kentucky, on boit le liquide du Kentucky Straight, c'est-à-dire nature.
Et il n'y a pas que le bourbon qui est nature.
Et le plus souvent, ce whisky est fabriqué à la maison ou par le voisin. Et ils appellent ça, eux, du moonshine. De toute façon, ils n'ont pas les moyens de se payer des bourbons industriels. Mais le titre, Kentucky Straight, n'évoque pas seulement une boisson. On pourrait le traduire par aussi Kentucky sans fioritures, straight. Et c'est effectivement, c'est un peu ça. Il n'y a pas de fioritures ni dans l'écriture, ni dans la vie des gens. Et le dictionnaire nous dit aussi que straight, en anglais, ça peut aussi vouloir dire qui ne rigole pas. Et de fait, dans ce bout de Kentucky que nous décrit Chris Offutt, on ne rigole pas souvent. C'est le Kentucky de son enfance, dans les années 50. La vie dans les collines aux alentours de Rock Salt. C'est tout petit, c'est des communautés rurales du sud, et en fait de l'est du Kentucky. À part les bois et les rivières, il y avait des mines. Mais à l'époque des nouvelles, donc dans les débuts des années 50, les mines ont été abandonnées car soit elles étaient épuisées, soit surtout elles étaient plus rentables. Pas de travail, ou presque pas. Alors, ils ont presque tous un potager, et ils chassent ou ils pêchent. Donc, le potager, c'est pour les vegetables, les légumes, et la chasse et la pêche, c'est pour la barbaque, comme l'explique d'ailleurs l'auteur dans plusieurs des nouvelles. À un moment même, les personnages sont attaqués par un ours, puis par un puma. Vous voyez un peu que c'est quand même pas le tout repos.
Straight.
Voilà. Et le narrateur dit, avec tendresse, en parlant des pumas, et ils n'ont pas eu, forcément, eux, ils se réveillent d'avoir hiberné, ils n'ont pas eu de barbaque de tout l'hiver, comme nous. Sauf qu'eux, ils n'ont pas hiberné. Par contre, il dit ça quand même avec un fusil dans les mains, parce qu'ils ne vont pas se laisser faire par les pumas. Il y a donc 9 nouvelles à l'écriture très âpre, pas de tourment psychologique, évidemment, que des cours instantanés. Il s'agit, pour les personnages, de vivre parfois de survivre dans des maisons au milieu des bois, au milieu des collines immuables. Une misère sourde, mais digne. On se plaint pas, on se rebiffe pas. Un petit extrait d'une des nouvelles. Dans le salon, il s'assit au bord du canapé. Un plastique transparent recouvrait l'autre moitié. Au fur et à mesure qu'il le remboursait, Connie exposait de petites portions de cuir en découpant le plastique avec un couteau de cuisine.
C'est une image.
Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire.
Il y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Extraordinaire sur la société de consommation, d'ailleurs aussi.
Aussi, oui. La religion a, évidemment, comme souvent aux États-Unis et dans le Sud, beaucoup d'importance. Mais ici, c'est assez désertique. Il y a peu de curés, enfin de pasteurs ou de prêcheurs, comme ils les appellent dans les régions rurales. Et ceux qui viennent, c'est souvent parce qu'en fait, ils ont abandonné la bouteille et qu'ils veulent persuader les autres d'en faire autant. Donc ils mettent un petit peu de dieu, de bondieuserie pour essayer de faire croire ça aux autres, puisque ça a marché pour eux. Il y a donc, vous l'avez compris, peu de distractions. La chasse et la pêche, c'est pas des distractions, c'est pour manger. Il reste les parties de cartes et le sexe. Peu de gens n'ont le temps, les moyens, ni l'envie de se cultiver. Chrysophute commence sa première nouvelle par une phrase assez édifiante. Personne sur ce flanc de colline n'a fini le lycée. Par ici, on juge un homme sur ce qu'il fait, pas sur ce qu'il a dans la tête. Moi, je ne chasse pas, je ne pêche pas, je ne travaille pas. Les voisins disent que je réfléchis trop. Ils disent que je suis comme mon père. Et maman a peur que peut-être ils aient raison. Pour finir, sans rien révéler des histoires, il y a deux scènes très surprenantes. La première, c'est, vous verrez pourquoi, un camion qui est coincé dans la neige. Évidemment, nous, enfin, de notre Côte d'Azur, comme ça, on imagine le Kentucky comme toujours écrasé de soleil. Et là, il y a un moment, le camion, il essaye de passer un col
à l'hiver,
dans la neige. Dans l'hiver, il doit faire froid.
Il fait très froid.
Et ça amène quelques scènes, je disais surprenantes. C'est un petit... Le mot est faible. Et la deuxième scène très surprenante, je voulais la lire, mais finalement, j'ai préféré ne pas. C'est comment ils traitent leurs chiens. Et il y a un moment, il y en a un des chiens qui rate le gibier. Son maître lui met une balle dans la tête et il le laisse comme ça, au pied de l'arbre, pour donner l'exemple à ses autres chiens. C'est quand on le lit, ça marque. Hein. Même si on n'aime pas forcément les chiens, ça surprend. Et le plus surprenant pour nous, citadins donc du 21e siècle, donc déjà bien longtemps après l'écriture de ces nouvelles, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas envie de partir. Il y en a un, quand il parle d'un des personnages, il dit « il aime manger et pêcher ». Et dans toute sa vie, il n'a jamais été plus loin que les 5 à 6 kilomètres du ruisseau. Il dit que ça lui ficherait mal à la tête s'il poussait trop loin. Ce qui est sûr aussi, c'est que les seuls qui partent, ils ne reviennent jamais, forcément.
Ceux qui vont au service militaire, faire l'armée.
À part l'armée, ceux qui partent volontairement pour aller ailleurs, ils ne reviennent jamais. Mais nous, comme le disait Corinne tout à l'heure, on reviendra sur Chrysophute.
Et on reviendra au Kentucky avec lui.
Et au Kentucky, après un petit morceau de musique.
Et donc, tu nous as choisi quoi comme dernier morceau ?
Eh bien, un morceau du chanteur country Boxer Willie. Alors, c'est simple, c'est un morceau qui est évoqué par Chrysophute lui-même dans la dernière nouvelle. C'est une chanson de train, comme il y en a beaucoup dans la musique country. Voir la vie, voir le monde depuis un train. Vous savez, ces vieux trains dans lesquels on pouvait encore grimper en marche, en courant, attraper une barre et aller se cacher. Il y en a de moins en moins maintenant. Donc, le morceau s'appelle Wabash Cannonball, c'est le nom du train. Et donc, le chanteur Boxer Willie. From the great Atlantic Ocean to the white Pacific shore, to the queen of flowing mountain by the south built by the shore. Hear the mighty rush of the engine, hear nine lonesome hobos fall. We're riding through to Dixie on the Wabash Cannonball. Our eastern states are dandy, so the people always say, from New York to St. Louis and Chicago by the way. From the hills of Minnesota where the rippling waters fall, no changes can be taken on the Wabash Cannonball. Listen to the jingle, the rumble and the roar, as she glides along the woodland by the hills and by the shore. Hear the mighty rush of the engine, hear that lonesome hobo's call. We're traveling through the jungle on the Wabash Cannonball.
people say. There's a gal out there from Texas. She's long and she's tall. She's a combination of the Wabash Cannonball. We'll listen to the jingle, the rumble and the roll as she glides along the woodland by the hills and by the shore. Hear the mighty rush of the engine, hear that lonesome hobo's fall. We're traveling through to Dixie on the Wabash Cannonball.
Et voilà, donc c'était Boxer Willy, Wabash Cannonball. On était dans l'ambiance.
Au début de cette émission, je vous ai parlé d'une intervenante assez exceptionnelle. Donc on est ravis de recevoir Michel Pedignelli. Merci beaucoup et bonsoir Michel.
Bonsoir.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va très très bien quand je suis avec vous.
Et bien tant mieux, parce que voilà. Et donc, comme dans votre livre paru au printemps, enfin il y a quelques mois, dans Bocanera, vous parliez pas mal de romans noirs américains et de votre passion pour ce type de littérature, on vous a demandé si vous vouliez bien faire une petite chronique, nous parler un petit peu du deuxième roman réédité de Chris Offutt. Vous avez gentiment accepté, donc vous allez maintenant nous parler du Bon Frère.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir conseillé cette lecture parce que c'était vraiment un régal. Alors, Le Bon Frère, l'histoire commence au fin fond du Kentucky. Donc, on est vraiment dans l'Amérique profonde, dans un bled qui s'appelle Blizzard. Et donc, on a le héros, on va dire comme ça, qui s'appelle Virgil Cowdy. C'est un bon gars, c'est un jeune homme tranquille qui est heureux dans sa caravane, qui est heureux au milieu des bois. Il travaille comme agent d'entretien dans la ville d'à côté. Il va peut-être s'installer avec Abigail. Donc il a une vie plutôt tranquille, plutôt normale. Mais voilà, Virgil, il a un frère qui s'appelle Boyd. Et Boyd, lui, c'est le contraire. C'est une tête brûlée, c'est un type libre, c'est un type qui suit aucune règle. C'est quelqu'un qu'on aime et qu'on déteste à la fois. Enfin, Virgil avait un frère, parce que Boyd a été assassiné 6 mois auparavant. Et le problème de Virgil, outre la douleur et la peine, c'est que tout le monde attend qu'il venge son frère. Alors sa mère, sa sœur, qui est même prête à lui prêter son mari pour qu'il lui file un coup de main, les copains du boulot, qui trouvent que quand même 6 mois, c'est un peu long. Et même le shérif qui vient leur rendre une visite pour leur dire « Bon, bah, désolé, je suis obligé de clore l'enquête parce que j'ai pas de preuves. » Tout accuse un certain Billy Waddale, hein, toutes les rumeurs, mais « J'ai pas de preuves, je ne peux rien faire. La loi ne peut rien faire. » Et il poursuit en disant « Mais s'il arrivait quelque chose à ce Billy Waddale et qu'il n'y avait ni témoins, ni armes, ni preuves, bon, bah, moi, j'enquêterai pas beaucoup plus, quoi. » Donc, là, Virgin se retrouve avec un permis de tuer quasiment officiel. Mmh. Et donc, c'est un peu une pression un peu lourde. Donc, un jour, il se rend au cimetière pour déverser sa douleur sur la tombe de son frère. Et là, en voyant la tombe d'à côté, il a une révélation. Il a compris, il sait ce qu'il doit faire. Et la tombe d'à côté appartient à un certain Joe Tillier. Et c'est un petit garçon qui est mort à l'âge de 7 ans. Alors, je ne vais pas raconter ce que Virgil va faire. Parce que non. De toute manière, quoi qu'il décide, de toute façon, les dés sont pipés. Et puis je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Et en fait, ce roman, pour moi, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui se demande qui il est. C'est-à-dire que tout le monde autour de lui semble avoir une opinion sur ce qu'il doit faire, doit être. Tout le monde le pousse à prendre des décisions où il n'a pas envie. Et lui se demande en permanence où est sa place, ce qu'il doit faire. Et donc il y a une espèce de quête du sentiment d'appartenance. Donc ça se passe, c'est ce qu'on aime, hein, ça se passe entre le Kentucky et le Montana, et dans une Amérique forcément violente, où les armes se manipulent aussi facilement qu'un briquet, mais avec d'autres conséquences. Au passage, on découvre un usage chirurgical assez étonnant d'une arme à feu. Je vais essayer de découvrir. On découvre aussi des différences culturelles entre le Kentucky et le Montana, ce qui pour nous, en France, est assez subtil, et effectivement ça existe, hein, notamment même sur le maniement des armes à feu. Et on découvre surtout le monde alors complètement barré des patriotes anti-gouvernementaux, ces espèces de milices là qui refusent toute inscription sur un registre national. Alors il n'y a pas de permis de conduire, il n'y a pas de sécurité sociale, ils refusent de payer les impôts, ils refusent en fait toutes les lois fédérales au nom de la liberté. C'est un groupe assez intéressant, hein, et c'est extrêmement bien décrit. Et donc pour finir cette petite chronique, je dirais que c'est un roman, alors c'est extrêmement bien écrit, hein, c'est extrêmement bien ciselé, avec une ironie féroce. C'est très bien traduit par Freddy Michalski, parce que sinon on ne pourrait pas le savourer aussi bien. Et en fait, c'est un roman qui parle du petit peuple blanc des États-Unis. Et c'est un petit peuple dont on parle peu finalement, qui est souvent oublié. Et Chris Offutt a pour moi une phrase qui explique pas mal de choses actuellement, notamment aux États-Unis. C'est une phrase qui dit « La haine est le plaisir le moins cher qui existe ».
Oui, une très très belle sentence.
Ouais. Voilà, c'est donc Chris Offutt chez Gallmeister, le bon frère, traduit par Freddy Michalski, et merci de m'avoir fait découvrir cet auteur qui est vraiment renversant.
Oui, on venait juste avant de parler de Kentucky Straight, son recueil de nouvelles, et on est très heureux d'annoncer que, dans pas si longtemps que ça, hein, parce que c'est dans, enfin bon, voilà, c'est quand
au
même...
Au début du deuxième trimestre 2019.
Voilà, c'est quand dans quelques mois va sortir donc un inédit chez Gallmeister, voilà, de Chris Offutt, donc on se régale à l'avance.
Et oui, parce qu'en fait, Chris Offutt a commencé à écrire, et puis malheureusement, ça le faisait pas complètement vivre de façon assez confortable, et comme quand ses enfants ont voulu aller à l'université, eh ben, il est parti écrire pour le cinéma et pour la télé. Donc, si vous avez peut-être vu son nom sur certains scénarios de films, de séries. Et donc, du coup, maintenant que ses enfants sont rangés, enfin, tous les cas sont plus à sa charge, il se remet à écrire depuis un certain temps. Et donc, du coup, on espère avoir non seulement un en avril, mais peut-être dans les années qui suivent.
Ah oui, parce que l'écriture de Chris Offutt, et puis, comme vous le dites, Michel, c'est cette description des marginaux, en fait, d'une certaine marge dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Nous, plus, parce que c'est vrai que dans le roman noir américain, on l'a souvent, mais on apprend énormément de choses sur un peuple américain qui est un petit peu occulté des médias nationaux, on va dire. Michel, Bocanera, ça marche bien? Où on peut vous retrouver cet été pour discuter avec vous de ce livre et peut-être se le faire dédicacer?
Alors cet été, mon Dieu, une grande tournée nationale. Non, je suis à Fréjus et à Toulon dans les librairies Charlemagne à la fin de la semaine, vendredi et samedi. Et puis cet été, j'ai le plaisir d'aller en Corse, à Ajaccio, à la librairie La Marge, dans un festival qui s'appelle Altaledge et à Altagen. Je serai dans la Creuse aussi.
Ah oui, ça c'est le grand écart là.
Voilà. Non, je fais un petit tour comme ça. Il y a plein de gens qui m'invitent et j'en suis ravie. Donc je vais rencontrer les gens partout où on me le demande et voilà. Et effectivement, j'ai des très bons retours de Bocanera.
Oui.
Voilà, tout va bien.
On est très content que Dieu aille faire un petit tour en Corse, en tout cas. Ça va lui faire plaisir.
Ça va la ressourcer.
Michel, merci beaucoup et puis j'espère à bientôt. Merci, au revoir.
À bientôt, Corinne. Au revoir.
Voilà, on arrive au terme de cette dernière émission de la saison. Donc, il nous reste quelques secondes pour vous dire notre traditionnel « Chacun dans un coin avec un bon bouquin ».
Et on se retrouve à la rentrée.
Mais tu n'as pas dit
plusieurs,
plein de lectures cet été. Voilà, sur la plage, dans un transat, partout. Merci, au revoir.